Salut tout le monde, c'est Patrice et bienvenue dans Start to Scale. Vous êtes sur le podcast qui interview les meilleurs experts de l'écosystème startup. Et en maximum 30 minutes, vous aurez des conseils actionnables tout en passant un super moment. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, j'accueille pour la deuxième fois Elliot qui est CEO chez EduSign. Salut Elliot!
Salut Patrice!
Alors, la dernière fois, on est parlé d'un sujet ultra stratégique qui était donc le pricing. Là, on va parler d'un sujet qui interpelle toujours beaucoup, c'est le full remote, parce que vous êtes une boîte en full remote. Et quand on avait discuté, tu m'as fait part d'une remarque que j'ai trouvée vachement intéressante, qui était un choix fort, c'était déjà que pour toi, l'hybride, c'était pas possible. C'était limite, tu vas en présentiel ou en remote, mais le côté hybride, déjà, c'est pas ta tasse de thé.
Non, c'est pas du tout ma tasse de thé. Tu vois, il faut imaginer un U, en fait. Je pense que dans la plupart des décisions, quand t'es au milieu, c'est un peu de la merde. Et le hybride, c'est ça. Non, en fait, je pense que le hybride, ça vient notamment des grandes boîtes qui n'ont pas su faire un choix, qui disent, ah, en fait, nos employés nous demandent du full remote, donc on va leur accepter un petit peu, mais les autres doivent quand même revenir au bureau. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, parfois, t'as ton manager qui est au bureau et puis toi, t'es chez toi ou vice versa. Et donc, la communication est quand même en asynchrone, enfin, ou en synchrone, mais en tout cas à distance. Donc, je pense que c'est très bien pour les employés, l'hybride. Surtout, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment avoir le bureau accessible, mais pouvoir faire du full remote. Mais pour autant, je pense que ça ne marche pas, à moins que le full remote soit pour tout le monde, par exemple, le même jour, ouais. Vendredi. À ce moment-là, pourquoi pas?
Ça, c'est bien. Ouais. Effectivement, moi, je connais des boîtes où ils disent, bah, voilà, le mercredi, c'est les gens qui sont en remote.
Non, mais si c'est ça, pourquoi pas? Mais rien que ça, déjà, ça rajoute de la complexité organisationnelle. Parce que combien de personnes ont travaillé le mercredi à se dire, ah, mais le truc important, là, je vais en parler demain, parce que je serai au bureau demain. Tu perds 24 heures. Et en fait, c'est pas anodin. C'est-à-dire que chaque petit point de vélocité perdu, c'est un petit point de croissance perdu aussi, de mon point de vue. Et donc, c'est compliqué. Ça demande aussi de mettre en place des outils à distance, où si tu les mets pas, bah, en fait, la communication n'est pas bonne. Donc, elle se fait, enfin, voilà. Ou alors, on dit que c'est une journée deep work. Bon, peut-être que ça marche dans certaines organisations. Je dis pas que c'est impossible. Ouais. Mais pour moi, c'est un choix qui est compliqué, que je recommande pas du tout. Et je pense que ça marche dans les grandes boîtes parce qu'en fait, elles ont un tel avantage. Elles ont tellement un gros business, une telle organisation des systèmes que ça passe. Je pense que pour les petites boîtes, c'est dangereux et qu'elles feraient mieux de choisir, soit full présentiel, soit full remote. Et il y a plein d'avantages aux deux.
Ah bah justement, vas-y, raconte-moi.
Bah, de mon point de vue, donc on est une boîte en full remote, mais je vais pas mordre que le présentiel est quand même plus efficace.
Intéressant.
Je pense qu'en fait, si tu mets un designer, un développeur, un product manager, idéalement même un client, mais bon, plus compliqué, dans la même salle, et tu leur demandes de venir avec une solution à la fin, rapidement, et c'est pour ça que les hackathons, ça marche bien. Par exemple, tu réunis tout le monde dans une salle et réfléchis vite, ça marche mieux. Et je pense que dans le meilleur des mondes, tu arrives à avoir un super confort de vie, perso, etc., et à être en full présentiel. En réalité, c'est compliqué. La plupart des boîtes sont à Paris, donc voilà, tu perds du côté perso. Mais en tout cas, sur la productivité, ouais, je pense qu'en présentiel, c'est plus efficace. Paradoxalement, moi, un truc que je vois souvent, c'est des boîtes qui sont en full remote pour les devs et qui sont en présentiel pour les sales.
Ouais, tout à fait.
Et je pense qu'en pratique, en théorie en tout cas, ça devrait être l'inverse. Je pense que la conception du produit, la créativité, nécessite parfois, ou en tout cas, à plus de vélocité, encore une fois, dans une salle, en physique, parce que la communication non verbale, c'est alors on dit 60-70%, peu importe, mais en tout cas, c'est une grosse part de la communication. En full remote, on perd quand même ça. Et donc, ces petits indices de comment la personne perçoit le truc, et on les perçoit pas, donc parfois c'est difficile de rebondir, c'est parfois plus difficile de débattre, donc on va plus en full remote avoir tendance, enfin, on le voit en tout cas, aller vers consensus parce que c'est difficile de débattre, et on est fatigué parce que là, il y a la Zoom fatigue, hein, au bout d'un moment quand on a trop de meetings à distance, etc. Donc, je pense qu'en présentiel c'est mieux, alors que les sales, paradoxalement, s'il y a un bon système en place, il faut qu'il y ait le bon système en place. Tout début, quand t'es 2, 3, que tu es encore en train de découvrir le truc, trouver la solution, c'est encore un peu différent, t'es encore dans la créativité. Mais quand t'es sur un vrai système, je pense que théoriquement, les sales devraient être très efficaces en étant focus, en faisant des calls, en étant donc chez eux, et pas dérangés, et pas en étant à la machine à café, à discuter du deal, machin, etc. Ce que je voyais en étant, parce qu'on est quand même passé à la station F à un moment, ce que je voyais plus. Et donc, je pense que dans une organisation qui se veut très efficace, c'est présentiel. En revanche, gros désavantage de ça, c'est que tu perds en vie perso, forcément. Si tu habites à Paris, qu'on te demande de venir au bureau qui est à 45 minutes de chez toi en métro tous les matins, c'est pas la même chose que d'être dans ta maison parce que t'es à La Réunion et c'est cool et tu vas à la mer le soir et ouais. Tu te réveilles à 8h55 pour commencer à travailler à 9h, tu déjeunes avec ta femme le midi tranquillement. T'as une qualité de vie qui est, je pense en général, un peu supérieure. Et donc le choix pour nous a été de dire... Et d'ailleurs, moi, la raison pour laquelle j'ai créé une boîte, c'était pour être en full remote à la base. C'est pas l'inverse. donc, c'est le seul truc qui est non négocié. C'est-à-dire que tout est sur la table avec mes associés, sauf ça, depuis le début.
Alors, ça, c'est fou, ouais.
Ça, ce n'est pas négociable. Tout l'est, mais absolument tout. Hein. Mais pas ça.
Est-ce que parfois, ça revient un peu sur le tapis? Est-ce que ça rediscute d'avoir un bureau ou pas?
Ouais, ça arrive de temps en temps, parce qu'il y a forcément des moments, en fait, où tu sens, ouais, mais en fait, ça serait bien d'avoir des bureaux pour, je sais pas, faire un meeting avec les sales, pour les coacher, etc. Mais en fait, tu peux pas. En fait, une fois que t'as fait un choix, il faut aller au bout du choix. Et je pense que là, et d'ailleurs, moi, j'ai deux associés. Il y en a des deux qui étaient pareil, full remote, pas de problème. Puis le deuxième, un peu plus hésitant au début, un peu plus traditionnel, on va dire, dans le sang à la base. Et il a fallu qu'on mette vraiment le système en place, qu'ils prennent le pas, et d'où l'importance derrière de recruter des personnes qui ont aussi une appétence, je pense, un peu pour le full remote, parce que si on le travaille un peu difficile, évidemment, les systèmes peuvent aider, mais ça, quelqu'un qui a besoin de contact ne sera pas bien chez nous.
Alors ça, c'est un très bon point que tu soulèves, parce qu'après le Covid, donc il y a beaucoup de boîtes qui ont changé, qui sont soit parties sur de l'hybride ou parfois même sur du full remote, mais avec des gens qui n'ont pas forcément demandé ça. Alors moi, je prends mon cas perso. Moi, c'est... J'apprécie de faire du télétravail. Parfois, c'est vrai que ça fait du bien. T'as besoin d'être concentré. T'as un peu la flemme d'aller au bureau. Ou tu dois, je sais pas, recevoir le plombier à 10 heures du mat. Mais en fait, moi, personnellement, je suis pas fait pour du remote. Ça me convient pas. Pouvoir le choisir une fois de temps en temps parce que j'en ai besoin à ce moment-là, oui. Mais quand c'est 2-3 jours par semaine ou venir dans des bureaux qui sont moitié vides, ça me convient pas. Et c'est intéressant, effectivement, que c'est une décision qui doit être prise dès le départ. Comme ça, les gens que tu recrutes sont dans cet état d'esprit et savent travailler dans cette manière.
Oui, bah, en fait, au tout début, donc on était à Station F. On était quand même beaucoup en full remote hein, déjà à l'époque, mais en tout cas, à un moment, après le Covid notamment, on s'est réunis un peu plus à Station F. Et on était 4, 5, 6. Et parmi les 4, 5, 6, il y avait notamment un employé qui, lui, était un peu accroché au bureau. Ouais. Il a fallu un gros temps de transition et il aurait, franchement, il aurait pu partir. Donc oui, je pense que c'est vraiment un sujet important.
Et ok, donc là, boîte full remote, la décision est prise. C'est quoi un peu tout ce qui a été mis en place en termes d'orga, en termes de, je sais pas, d'équipement, budget pour les équipes pour bien bosser?
Oui, alors on n'a pas tout mis en place tout de suite, c'est fait au fur et à mesure du temps. Déjà, au tout début, nous, on a fait comme tout le monde, hein, on était sur Google Meet, Whereby, oui. On a testé un peu tout, hein, Zoom, voilà, tous les outils comme ça. Et en fait, on a réalisé déjà un premier truc, c'est que quand il faut lancer le logiciel de meeting, et qu'il faut envoyer le lien et qu'il faut dire à la personne le truc. Déjà, tu crées de la friction, donc tu as moins tendance à le faire. Et donc, il fallait qu'on trouve quelque chose pour que on reproduise un peu ce truc dans le bureau de je vais te taper sur l'épaule, est-ce que tu as deux minutes, est-ce que je peux te parler. Alors, le est-ce que tu as deux minutes, on va quand même poser des questions parfois sur Slack pour que ce soit pas juste est-ce que tu es dispo, mais t'expliques déjà ce que tu veux faire avant de faire le meeting. Mais dans l'idée, essayer de trouver une solution qui permet d'être plus proche. Et donc, on a découvert Gazer. Maintenant, ça va faire 3 ans quasiment qu'on l'utilise. Gazer.tern, qui est un petit outil de bureau virtuel.
Okay.
Et donc, ça permet de... Donc, en gros, toutes nos réunions internes, elles se font sur cet outil. Et ça permet d'arriver sur le logiciel et de faire des réunions très rapidement. Donc, par exemple, le matin, tu vas faire un daily. Donc, ça a d'autres avantages. Imaginons que tu fais un daily à 5, parce que, je sais pas, tu as 4 devs, 1 PM. Et bien, à la fin du meeting, tu peux dire, OK, bah, là, les deux devs, on a discuté un petit truc, est-ce qu'on peut se voir vite fait? T'as juste à déplacer de 3 mètres sur la carte, parce que c'est une carte
virtuelle. Ouais, voilà, c'est ça, ça ressemble donc
vraiment à un bureau virtuel, exactement.
Donc tu vois ton petit bonhomme bouger.
Exactement, donc tu te déplaces de 3 mètres, et puis tu vas leur parler. Et puis si t'as besoin de l'input du marketing, tu fais « Allez, salut le marketing, est-ce que tu peux venir nous rejoindre ?» Et en fait, ça marche beaucoup plus rapidement. Évidemment qu'on peut faire ça avec Google Meet aussi, mais c'est plus dur, on crée de la friction. Donc ça a vraiment changé pas mal de choses, et aussi petit avantage, quand tu recrutes notamment des devs et que tu fais le recrutement là-dessus, ça fait son petit effet. Ah oui, ok, vous êtes vraiment sérieux sur full remote.
Mais ça, je trouve ça vachement bien. Il y a une boîte qui s'appelle Jamespot qui fonctionne aussi de cette même manière, et j'ai pu le voir. Effectivement, tu vois les gens aller un peu à la machine à café, tu vois les gens, ok, là ils sont dans une zone où ils veulent bosser sans être dérangés. Je trouve ça vachement bien, mais je l'ai pas trop vu. dans d'autres boîtes, malheureusement. Et bref, et ok, donc il y a ça qui se met en place donc, assez rapidement, si je comprends bien. Et après, c'est quoi les autres étapes qui ont été suivies?
Ouais, donc après, la prochaine étape, ça a été la communication asynchrone, enfin la documentation, pour okay. être précis. On n'a pas tous la même appétence pour l'écriture, on n'a pas tous les mêmes réflexes. Il y en avait qui avaient, et d'ailleurs toujours encore, hein, il faut le rappeler, je dois le rappeler tous les jours hein, quasiment, mais quand même, ça prend, ça, évidemment que c'est aujourd'hui, ça va bien mieux qu'au début, mais il y en a qui ont le réflexe, en fait, dès qu'ils ont une question, un problème, un truc à discuter, c'est pas, ils t'envoient un message, c'est, ou, à la limite, ils t'envoient une ligne, puis ils disent, je suis dispo pour en discuter.
Okay.
Non, mais explique ton truc, s'il te plaît, écris-le. Comme ça, il y a une trace, on peut rajouter les gens, et d'ailleurs, tout est en public chez nous. Ou en tout cas, tout sauf les sujets très sensibles, hein, l'ego, RH. Ouais. Mais sinon, tout est en public, tout est accessible. Donc, tu arrives dans EduSign le premier jour, tu as accès à tout.
Okay.
Tu as accès à tous les canaux Slack, tu as accès et tout est en public. Ça ne veut pas dire que tu rejoins tout, il faut gérer ses notifs. C'est important d'ailleurs aussi. D'ailleurs, pareil dans les trucs dans Full Remote, il y a des articles sur comment travailler en Full Remote qu'on a écrit, sur les notifs, mm-hmm. sur quels outils utiliser, etc. pour vraiment rester productif. Parce que forcément, si tu as ton téléphone qui sonne toutes les deux secondes parce que tu as un notif Slack, bah, ça ne va pas du tout. Donc tout est en public. Et si tu as une bonne documentation bien maintenue, que tu as tout en public, ça permet de faire un truc qui est assez magique. Parce qu'au début, tu te dis « Ouais, mais ça ne sert pas à grand-chose, je peux régler le problème. » rapidement parce que j'ai tout dans ma tête. Bah oui, t'as tout dans ta tête parce qu'on est cinq, donc la communication est hyper fluide. Les relations entre cinq personnes, imagine t'as trois personnes, tu fais un triangle en fait dans les relations, donc t'as trois liens. Rajoute quatre personnes, ça y est, t'as déjà quatre liens. Et en fait, plus tu grossis, plus t'as de liens dans tous les sens, et à 40, t'as des liens dans tous les sens, et donc personne en fait n'a toutes les infos. Donc les écrire, c'est vachement utile. Et évidemment, c'était 400 comme partout, bah là, c'est de la folie. Donc si tu n'écris pas les choses, c'est compliqué. Donc là, ça permet de, comme sur une base de connaissances avec du support, hein, finalement, plutôt que de répondre par chat ou email, bah, tu vas voir sur le support, enfin sur le Help Center, une fois que tu n'as pas trouvé ta réponse, là, éventuellement, tu fais un meeting. Du coup, tu élimines 95% des questions dans le cas du support. Bah, pourquoi ce ne serait pas la même chose en interne? Pourquoi tu n'éliminerais pas 95% des meetings? Et si tu arrives à faire ça, tu as un gain de productivité juste gigantesque. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que déjà aujourd'hui avec l'IA, c'est un gros avantage parce que ça nous permet de potentiellement faire des chatbots en interne, etc. Pour, sur notre propre donnée, chose que tu n'as pas si tu n'as pas fait ça. Et secondo, ça te permet juste d'être plus productif et de travailler un peu plus en asynchrone aussi quand tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un sur quoi que ce soit.
Et c'est rigolo quand tu mentionnais là les demandes Slack sur ah tiens j'ai ce problème là est-ce qu'on peut en discuter. Je parlais avec donc c'était le responsable ops chez Stockly et eux ils ont mis en place un système de tickets. Donc en gros Slack c'est utilisé pour tout ce qui est un peu discussion informelle, annoncer un anniversaire, qui veut déjeuner ce midi. En revanche toutes les demandes c'est un système de tickets avec des templates pour obliger les gens à structurer leurs demandes pour dire à qui je l'adresse, je nomme une personne. C'est quoi le contexte? Qu'est-ce que j'attends derrière? Sous combien de temps? Quel degré d'urgence? Pour justement éviter ce côté de « en fait, je me fais polluer toute la journée par des demandes qui soit peuvent être trouvées facilement ailleurs ou soit qui sont pas assez bien exprimées et qui peuvent générer de la friction. »
On a ça aussi, mais pas sur tout. Tu vois, alors sur les bugs, sur les demandes de features, je pense qu'il y a aussi un petit truc sur lequel il faut faire attention quand même. Quand on est en full remote, la culture, elle est plus faible, hein, forcément. Parce que t'as pas le petit apéro après la journée, t'as pas les anniversaires fêtés, t'as pas tous ces petits liens qui se créent un peu naturellement dans un bureau. Et donc tout formaliser peut être un peu un problème. Et donc parfois on a volontairement laissé un tout petit peu de slack là-dessus. Donc par exemple, on savait que les sales c'était un peu long parfois de remplir un truc pour les feature requests. Donc au début, ce qu'on a dit c'est mais juste écrivez-le en fait sur Slack. Okay. Déjà, juste écrivez le truc. Nous on gérera la traduction parce que ça veut dire on vous posera les questions nécessaires. Et une fois que déjà ils ont bien acquis ça, bah là on passe à la version 2 qui est de prendre un système et de mettre en place effectivement avec des questions prédéfinies.
Ok. Et après ça, il y a aussi un budget qui a peut-être été mis en place pour bien s'équiper.
Ouais. Donc ça a été effectivement une des étapes suivantes. Donc mettre un budget en place pour l'équipement. Je pense que c'est important d'avoir une bonne chaise, un bureau adapté éventuellement. Donc ça permet, après c'est à la discrétion de chacun, donc ça permet d'acheter, je sais pas si toi c'est très important d'avoir une Remarkable ou des AirPods, vas-y. Moi ce que je conseille c'est quand même la chaise en général. Je pense que c'est vraiment sous-côté quand on travaille, j'allais dire 10 heures, alors les employés travaillent peut-être pas 10 heures, mais en tout cas une bonne partie de la journée devant l'écran sur sa chaise. Et on a un autre budget aussi, coworking,
Ah, ok.
Quand bien même les personnes sont à distance et ne se voient pas régulièrement et ont personne dans la même ville qu'eux, c'est bien parfois de changer d'environnement. Donc s'ils veulent aller dans un café, un coworking, ils peuvent y aller. Donc il y a des personnes qui y vont 2 jours par semaine. Il y en a d'autres qui n'y vont pas du tout, hein, ils sont très bien chez eux. Mais donc il y a ce budget-là pour chacun en fonction de ce qu'ils souhaitent faire.
Ok, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais... Donc, l'importance de la communication, le côté bah, body language, qu'on l'a pas en remote, etc. Est-ce qu'il y a eu un peu des règles ou un peu des règles de bonne conduite sur comment bien communiquer pour justement essayer un peu de tirer le maximum du verbal quand on n'a pas au moins de non-verbal ?
Est-ce qu'il y a des règles sur le verbal ? C'est une bonne question. Pas tant que ça. On a beaucoup de règles sur l'écrit.
Okay.
C'est comment... En fait, là, naturellement, les gens n'écrivent pas très bien. En tout cas, pas de manière structurée.
Okay.
Et donc, il faut les aider.
Oui, on remarque que toute la journée, il y a quand même plus, effectivement, peut-être de Slack et d'email que ouais.
Mais en fait, la vraie règle à l'oral, c'est est-ce que tu as besoin du meeting ? Ça, c'est déjà la vraie première règle. C'est est-ce que tu as vraiment, absolument besoin du meeting ? Si tu n'as pas besoin, soit c'est un moment informel et tu as envie de le faire et ça arrive, c'est très bien, même on l'encourage. Soit tu ne devrais pas faire de meeting.
Okay.
Et un meeting, c'est un meeting idéalement préparé. Et c'est difficile hein, parfois de respecter toutes ces règles, on va pas se le cacher, mais on essaie de faire en sorte que ça soit préparé, qu'il y ait un responsable très 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 clair, ça c'est très important aussi, qu'il y ait un débrief, que tout soit noté derrière. Donc en fait, même quand il y a un meeting, il faut écrire à la fin.
Okay.
Donc c'est un peu ce truc de, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu écrives.
Ouais, donc culture de l'écrit.
La culture de l'écrit et aussi culture, il y a des petits trucs, mais par exemple, on a demandé à ce que la taille des meetings soit la plus réduite possible. C'est-à-dire que si par défaut, tu mets 1 heure, t'es probablement pas en train de faire le bon truc. Mais par défaut, 1 demi-heure, bloque-toi 1 demi-heure après si besoin, au cas où, à la limite. Et par défaut, c'est 1 demi-heure, parce qu'on a tendance à un peu remplir le temps.
C'est vrai.
Donc, naturellement, je pense que les gens chez Ducell l'ont compris. Pas besoin d'éterniser le meeting. S'il y a 1 demi-heure de prévu, si en 10 minutes on a terminé le truc, on le termine. Je crois que c'est plutôt efficace. Et s'il y a une petite règle aussi, toute bête, arriver à l'heure. En full remote, il faut arriver à l'heure. C'est vrai. 2 minutes en retard, c'est un problème. 1 minute, ça va, ok, à la limite. 2 minutes tous les jours, ouais. C'est un problème, un sérieux problème. Non pas parce que tu fais perdre le temps aux autres, mais déjà, tu fais perdre le temps aux autres. Tu dis aux autres, mon temps est plus important. Après, tu étais avec un client, etc. Il y a quand même des vraies excuses, hein, ça arrive, évidemment. On n'est pas complètement dictateur, mais disons que c'est important de respecter l'autre, c'est important donc d'essayer d'arriver à l'heure systématiquement, de prévenir qu'on ne va pas être à l'heure. Et il y a aussi un truc tout bête, c'est quand on est en présentiel, on attend quelqu'un. Mais en fait, il n'y a pas ce truc de j'attends devant l'écran bêtement et j'hésite à lancer une autre tâche. En pire des cas, en présentiel, tu vas te faire un café si tu veux attendre pendant 2 minutes. Alors que quand t'es en full remote, tu vas pas le faire. T'es obligé de rester devant ton écran.
Parce que
tu sais pas, en fait, si la personne arrive ou pas, t'es en train de faire ta machine. Ah merde, attends, faut que je revienne. Donc ouais, c'est important. C'est un petit détail, mais qui est important.
Et niveau culture d'entreprise, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement un peu forger tout ça?
Ouais, bah, niveau culture d'entreprise, déjà, la culture d'entreprise, je pense que ça commence avant même que la personne arrive. Ça commence au recrutement. Ça commence au recrutement dans les deux sens. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au recrutement, déjà, on a une grille critère hard skills, soft skills. Bon, là, il n'y a pas de. Je pense qu'on n'est pas particulièrement innovant là-dessus, mais on essaie d'identifier donc, les personnes qui devraient fit dans la culture, hein, donc, que ce soit pour le full remote, mais aussi startup, etc., tech, tout ça. Mais on essaie aussi de faire en sorte que l'échange soit dans les deux sens. Et donc, on donne beaucoup d'informations. On est très transparent et on ne va surtout pas surpromettre. On va pas dire ton poste sera génial, tu feras ça. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent et disent moi, je veux manager. Si le poste, c'est peut-être un jour tu manageras. On va pas dire c'est peut-être un jour tu manageras, on va dire aujourd'hui, il n'y a pas de management. On dira éventuellement un jour, mais franchement, si tu viens pour ça, ne viens pas. Quoi.
Okay.
Et on essaie d'être très 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 transparent. Une fois que tout est aligné, enfin on pense que tout est aligné, là, on passe à l'étape suivante, et donc la personne est recrutée, signe son contrat, et avant même qu'elle arrive, on envoie beaucoup d'informations. On envoie beaucoup d'informations, on essaie de garder le lien, on essaie de faire en sorte que la personne comprenne qu'on a une culture de l'écrit aussi.
Et quoi les infos que vous envoyez par exemple ?
On envoie, en fait on a un employee handbook, si on veut, une espèce de base de connaissances interne. Et donc là, on envoie quelques articles bien définis sur notamment la culture en full remote, donc les choses importantes culturelles, pourquoi la boîte existe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ces trucs-là, on envoie ça en amont, ça c'est beaucoup de la lecture, c'est tranquille. Et puis après, souvent quelques jours avant, on envoie de la lecture un peu plus précise. Mm-hmm. La, encore une fois, la personne a accès à tout avant. Si elle veut tout regarder, il y a déjà des gens qui ont poncé le truc avant d'arriver. Hein. Mais donc, ça dépend des postes, évidemment, et des personnes. Et après, on envoie des trucs un peu plus précis par rapport au rôle. Et après, on onboard. Donc là, il y a une semaine d'onboarding. On essaie de faire en sorte que la personne voit un peu tout le monde dans la boîte. Mm-hmm. Bon, tout le monde, aujourd'hui, ça ne veut peut-être pas dire tout le monde littéralement. Ça veut peut-être dire aujourd'hui un peu tous les postes à minima. Et plus la boîte grossit, évidemment, plus c'est ça. Mais en tout cas, même un développeur a passé un peu de temps au support et un sales va aller voir un tout petit peu les devs pour comprendre ce qu'ils font. Donc ça, c'est important. On crée un peu cette culture comme ça. On pense que la première semaine est vraiment hyper importante. Donc il faut que la personne se sente accueillie mm-hmm. parce qu'on a besoin qu'elle soit autonome. Et pour être autonome, il faut oser demander aux gens aussi de l'aide quand on en a besoin. C'est aussi dans ce sens-là, finalement, être autonome. Et pour qu'on puisse demander de l'aide, il faut être à l'aise avec les autres. Et donc, on essaie de faire en sorte que la personne se sente bien accueillie, et, etc. Donc, on a aussi installé, par exemple, il y a un an à peu près, une petite application qui s'appelle Matter App, qui permet de féliciter les gens chaque semaine, de les encourager, etc. Okay. Donc, pareil, des petits trucs. Donc, quand la personne arrive, en général, on lui envoie des petits kudos, voilà, des petits trucs qui permettent de créer cette culture. Mais ça suffit pas. On se voit aussi deux fois par an. On pense qu'aujourd'hui on arrive à une taille d'entreprise, c'est peut-être pas assez d'ailleurs. Okay. Donc on se pose la question. Faudrait peut-être.
Donc deux séminaires par an, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc là on est allé dans le sud pendant 5 jours par exemple, ouais. Tous ensemble faire quelques activités, un petit hackathon et travailler ensemble. Et après je pense que la culture, on a encore des points à améliorer. Hein. J'ai pas trouvé la formule magique. Je pense qu'il faut aussi un peu accepter qu'en full remote, les employés sont un peu plus détachés de la boîte et d'où l'importance d'avoir des bons systèmes qui permettent de faire en sorte que les journées ne s'éternisent pas nécessairement. Mm-hmm. Je dirais que l'équipe vie pro vie perso est assez importante chez Edusign. Alors, il faudra demander aux employés aussi, évidemment. Mon avis biaisé, mais c'est important. Et donc, la culture, c'est aussi ça. C'est de dire, bah, tu veux aller faire du tennis à 16 heures, vas-y. Okay. On te fait confiance pour que si tu as un truc à terminer, bah, tu le termines le soir.
C'est cool, ça. Hein? Faire.
Ouais, bien sûr. Mais c'est full flexibilité, mais parce qu'on a...
Et est-ce que les gens, ils mettent dans leur agenda, par exemple, privé, ou est-ce qu'ils mettent carrément sport
Non, la règle, c'est tout est dans l'agenda. Après, c'est perso, la personne met ce qu'elle veut. Mais en tout cas, on veut que soit extrêmement clair sur qui est présent, finalement,
oui, voilà,
ou pas.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ça, c'est vraiment une règle sine qua non. Et si elle n'est pas respectée, ça pose problème.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, on n'hésite pas aussi à dire quand les choses ne vont pas. Et si ça va pas trop longtemps, on se sépare de la personne d'un commun accord. Et en général, c'est d'un commun accord parce que c'est culturel.
Oui.
Encore une fois, c'est protéger la culture, c'est aussi protéger de l'extérieur et donc protéger des gens qui ne fitent pas dans la culture, je pense. Ça, c'est aussi important de bien définir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas.
C'est ça. OK. On a fait un bon tour, là, non?
On a fait, je pense, un bon tour sur le
On a tout dit? Trop bien. Écoute, c'était vachement intéressant. Vachement intéressant de voir un peu tout ce qui est mis en place. Et puis voilà, toutes les règles, enfin pas les règles, mais les consignes, la culture qui ont été mises en place pour que ça marche chez Edusign. Et puis c'est toujours beau d'entendre des boîtes où on sent que c'est porté aussi par ce côté équilibre vie, vie perso. C'est chouette d'entendre ça. Ouais.
Bien sûr. Bon, après, il y a quand même un avantage aussi économique. Hein. Moi, j'entends toujours qu'on a des difficultés à recruter des devs, etc. dans la tech. On met une offre, on a 500 candidats. Hein. Ah, ouais. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème à recruter.
Okay.
Alors, il y a toujours des problèmes à recruter des personnes très, très fortes. Mais on a beaucoup moins de problèmes là-dessus. Économiquement parlant, je paye... en moyenne, je vais probablement payer un peu moins que ce que je paierais les gens à Paris. Ou alors, je les paye de manière équivalente. Mais du coup, ils se sentent vachement mieux et ils restent longtemps.
C'est ça.
Donc, il y a aussi cet avantage pour la boîte. On ne paye pas de locaux.
Les
locaux,
ça, c'est énorme.
En moyenne, je crois que c'est 8% du CA des boîtes. C'est énorme. C'est énorme. Tu fais ça en bénéfice si tu fais 10 millions. Sympa, hein, la fin de l'année quand même. Ça dépend évidemment. Mais c'est des avantages aussi économiques. Je pense que finalement, pour la boîte, ce n'est pas forcément si mal. Si tant est que ça marche. C'est la difficulté.
Exactement.
Il faut le faire marcher. Il faut mettre les systèmes en place. Le full remote, c'est pas juste se mettre sur Zoom.
C'est ça. Bah écoute, merci pour ce mot de la fin, c'est super intéressant. Et écoute, je te dis à bientôt.
Merci Patrice, à bientôt.
Et voilà, j'espère que vous avez passé un super moment. Si c'est le cas, envoyez un message à l'invité du jour, ça lui fera vraiment plaisir. Et laissez-nous un avis et une note 5 étoiles pour donner encore plus d'impact à ce podcast. Merci et à bientôt.